passe bien. J'en suis pas sûr du tout. Mais on peut toujours espérer. Voilà. Donc, Marie Curie, l'histoire que je vais vous raconter, qui est donc celle de sa vie, commence en novembre 1891. Elle a 24 ans et elle arrive à Paris. Elle arrive à Paris pour réaliser son rêve qui est de faire des études scientifiques. Le Paris de cette époque, c'est le Paris de la Belle Époque. Il est en pleine explosion culturelle. C'est le Paris de Claude Monet. C'est le Paris aussi d'Auguste Rodin. C'est le Paris aussi, bien sûr, de Camille Claudel, qui a pratiquement le même âge que Marie Curie. Et puis, on ne va pas les citer tous, mais c'est le Paris de Gabriel Fauré, de César Franck, de Camille Saint-Saëns, de Claude Debussy, de Maurice Ravel, etc., etc. Et puis, c'est aussi un Paris dans lequel il se passe beaucoup de choses sur le plan scientifique. Et puis, on va rajouter ça, c'est important aussi, c'est le Paris de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel toute neuve, qui vient d'être construite pour l'exposition universelle de 1889, centenaire de la Révolution française. Mais même si elle est intéressée par l'art, par la musique, Marie ne vient pas pour le côté culturel de Paris. Elle est venue, elle vient pour faire des études. C'est un rêve qu'elle exprime depuis très longtemps et qui peut se réaliser grâce à un pacte qu'elle a passé il y a déjà 8 ans avec sa sœur Bronia, sa sœur aînée. Bronia voulait faire des études de médecine, et à cette époque-là, il n'y avait pratiquement pas d'université où les femmes pouvaient faire des études. Il n'y avait que Saint-Pétersbourg et Paris. Saint-Pétersbourg, pour une Polonaise, ce n'était pas possible, parce que la Pologne était gouvernée, asservie complètement par la Russie. Mais Paris, c'était cher, c'était loin. Comment pouvoir faire des études dans ces conditions-là si on veut être fidèle à ses convictions et puis en même temps fidèle à son rêve qui est de faire de la médecine? Alors le pacte avec Marie, ça a été: tu vas travailler pour me payer mes études de médecine et moi, dès que je serai médecin, je paierai tes études de scientifique. Et c'est comme ça que Marie va accepter pendant 8 ans de faire un travail soit dans l'enseignement comme enseignante, soit de précepteur où il y aura des tas de choses. Mais Marie est seule, elle est dépressive, elle va passer 7 ans vraiment très très difficiles. Elle est mélancolique. On dirait maintenant qu'elle souffre de dépression majeure, de repli sur soi, et elle écrit « Mes plans pour l'avenir ». Je n'en ai pas. Me débrouiller tant que je le pourrai, et quand je ne pourrai plus dire adieu à ce bas monde, le dommage sera petit. Les regrets que je laisserai seront courts, aussi courts que pour tant d'autres. Elle ajoute aussi dans d'autres lettres qu'on trouve, et dit: je suis très gaie, je dissimule sous des rires mon profond manque de gaieté. D'où vient pour Marie, sans doute, je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas, mais cette tristesse latente. D'abord, c'est parce qu'elle a eu une enfance difficile, douloureuse. La mort de sa sœur Sophia, que vous avez là, à gauche, quand Marie avait 9 ans. Et puis, une relation avec sa mère difficile, parce qu'il se trouve que sa mère exprime peu de tendresse. Elle est jalouse, ses petites amies, qui sont embrassées par leur maman. Elle ne comprend pas pourquoi. Peut-être que des paroles auraient dû être dites. Mais elle ne le comprendra que trop tard. Quand, à l'âge de 11 ans, quand elle aura 11 ans, sa maman va mourir. Elle saura alors que sa maman était atteinte de tuberculose et que si elle ne les embrassait pas, si elle ne les prenait pas, c'était parce qu'elle ne voulait pas risquer de leur donner cette terrible maladie. Marie va garder cette impossibilité d'embrasser ses enfants, ses filles, au point que ses propres filles en souffriront elles aussi. Mais voilà, les années d'enseignement, de précepteur, vont se terminer, parce que Bronia vient de terminer ses études de médecine à Paris, et elle invite tout simplement Marie à venir faire enfin des études de sciences. Mais Marie, je vous l'ai dit, elle est dépressive, elle déprime. Elle prétexte que son père a besoin d'elle, elle hésite, elle ne vient pas. Brogna est obligé d'insister dans plusieurs lettres. Et finalement, Marie va venir à Paris. Elle arrive à Paris. Mais à Paris, elle est déchirée, son cœur va rester déchiré. Marie, c'est une révoltée. Elle a connu Rosa Luxembourg en Pologne. Elle est aussi révolutionnaire. D'ailleurs, elle dit qu'elle a hésité un moment entre une carrière de révolutionnaire, une carrière scientifique. Elle est en colère contre l'asservissement de la Pologne. Oui, pendant toute son enfance et encore maintenant, c'est la Russie qui dicte sa loi. La République des deux nations, comme on l'appelait, a été partagée entre trois pays, la Russie, la Prusse et l'Autriche-Hongrie. Il y a eu successivement plusieurs insurrections en Pologne. La première en 1830-1831, une répression durement réprimée qui a entraîné une émigration massive de Polonais, parmi lesquels Frédéric Chopin qui écrit dans son journal « Oh Dieu, existes-tu ? Oui, tu existes. Et tu ne nous venges pas ? Es-tu toi-même moscovite ?» Et puis une deuxième insurrection en 1863 qui va être, elle, encore plus durement réprimée par la Russie. Il y aura des centaines d'arrestations, des condamnations à la pendaison et des gibets aux alentours de la ville. Le tsar Alexandre II décide la russification de la Pologne. Il va imposer la langue russe comme langue officielle et tous les fonctionnaires polonais sont révoqués et remplacés par des Russes. Devant cette répression très très dure, les intellectuels polonais abandonnent la lutte armée pour se retrouver sur d'autres terrains. C'est l'époque du positivisme, de ce qu'on appelle le positivisme polonais. Oui, ils se disent plutôt que d'essayer de combattre par les armes, on va essayer de combattre par la connaissance. Ils se veulent réalistes. L'éducation populaire. Faire de l'éducation populaire. La science pour le plus grand nombre de gens possible. Et c'est comme ça que Marie va pouvoir participer, dès l'âge de 15-16 ans, aux universités volantes. Les universités volantes, c'est des universités, des cours qui se font tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, toujours de manière cachée, en changeant de lieu souvent pour ne pas risquer d'être pris par les polices russes. Ils déménagent pour des raisons de sécurité. La population de ces universités volantes est surtout féminine parce que les cours se font dans la journée et que les hommes sont plus souvent pris par leur travail. Il faut dire aussi que en Pologne, ce qui est absolument exceptionnel à l'époque, on ne considère pas l'infériorité des femmes comme étant quelque chose allant de soi, alors que partout ailleurs, c'est autre chose. Et c'est sans doute là, dans ces universités, que Marie va apprendre à la fois le droit des femmes, elle sera féministe toute sa vie, le désir et le courage d'apprendre et de développer les connaissances. Et c'est comme ça donc qu'elle s'est formée et qu'elle arrive à s'inscrire à la Sorbonne où, dans son année, à la fin de l'année, il n'y aura que 2 femmes sur 2 000 étudiants inscrits. Elle passe des journées entières dans sa bibliothèque, dans la bibliothèque, et puis après, elle travaille chez elle très très tard le soir. En fait, elle a beaucoup de lacunes. Elle a beaucoup de lacunes parce que dans ces universités volantes, on pourrait dire universités populaires, eh bien, on ne faisait pas du tout de science. On travaillait surtout en cachette la langue russe, la littérature russe, tout ce qui était, pardon, pas russe, polonaise, et bien évidemment, tout ce qui allait à l'encontre de la culture russe imposée. Alors, elle écrit bien, j'étais obligé de combler ces lacunes, particulièrement en mathématiques. Je partageais mon temps entre les cours, le travail expérimental et l'étude à la bibliothèque. Le soir, je travaillais dans ma chambre, quelquefois très tard dans la nuit. Et tout ce que j'apprenais de nouveau me ravissait. C'était comme un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, le monde de la science, que j'étais enfin autorisé à connaître en toute liberté. tout mon esprit était centré sur mes études. Cette vie, pénible d'un certain point de vue, avait malgré tout un véritable charme pour moi. Elle me donnait un sentiment rare de liberté et d'indépendance. Et c'est comme ça qu'en juillet 93, elle termine son année en étant première à la licence de physique et l'année suivante en étant seconde à la licence de mathématiques. C'est la première fois qu'une femme a ses diplômes et la première fois aussi, pour elle, qu'une femme rêve d'aller encore plus loin. Et oui, elle voudrait faire une thèse. Seulement, il lui faut travailler pour payer ses études. Elle vit dans une mansarde, dans le quartier latin, pas loin de la Sorbonne, mais elle n'a pas d'argent. Et malgré toutes les économies qu'elle fait, ce que lui donne sa sœur Bronia, ça ne suffit pas. Alors, elle va chercher un travail. Et il se trouve qu'il y a un travail, une proposition de travail liée à l'industrie qui est sur l'étude des propriétés magnétiques de divers aciers. Chance, malchance, comme dit le comte, va-t'en savoir, qui sait. La malchance, c'est que Marie a besoin de ce travail, mais elle n'a jamais étudié un mot du magnétisme. Elle n'y connaît rien du tout. Ça, c'est plutôt embêtant. Et puis, la chance, oui, ça c'est la chance, c'est que le grand spécialiste du magnétisme, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Curie. Pierre Curie est une autorité mondiale en matière de magnétisme et en matière de beaucoup d'autres choses aussi. Il est chercheur au laboratoire de physique et chimie industrielle de la ville de Paris. De manière particulière, c'est un autodidacte, il n'a jamais été à l'école. Mais il a quand même eu son baccalauréat scientifique à 16 ans, sa licence de physique à 18, et à 19 ans, il était accepté comme préparateur à l'école de physique et chimie industrielle. Là, il va faire avec son frère des recherches absolument extraordinaires, découvrant dès à 21 ans la piézoélectricité. C'est le système qui sert à allumer votre gaz, en particulier parce que c'est aussi ce qui marche dans les montres à quartz, etc. C'est une découverte extraordinaire. Il étudie la symétrie en cristallographie, c'est un spécialiste, et puis bien sûr, le magnétisme. Alors, pour dire, ça c'est ses connaissances, ça c'est son côté autodidacte, mais il faut dire que c'est quelqu'un qui est particulièrement timide, est extrêmement maladroit dans ses relations. Il est très humble. Au regard de la concurrence actuelle, on pourrait dire que c'est un amateur. Il a besoin d'argent lui aussi, il a besoin d'un poste. Mais il ne veut pas poser sa candidature quand il y a des postes disponibles parce qu'il trouve que c'est méprisable d'entrer en compétition avec les autres. Alors là, il a 35 ans et il n'a toujours pas de poste, il est préparateur, c'est tout. Et puis, autre ennui, surtout dans la circonstance actuelle, là, actuelle, pour lui et pour Marie Curie, c'est qu'il est très maladroit, mal à l'aise avec les femmes. À 35 ans, il vit encore chez ses parents. Marie, elle, a 27 ans, elle vit seule, et on va dire dans un taudis. Marie va écrire, quand elle le rencontre, un truc. Non, il n'y a pas de truc. Elle le rencontre. Quand j'entrais, Pierre Curie se tenait dans l'embrasure d'une porte, fenêtre, donnant sur un balcon. J'ai été frappé par son regard clair et par une légère apparence d'abandon dans sa haute stature. Sa simplicité, son sourire, à la fois grave et jeune, inspiraient confiance. Une conversation s'engagea entre nous, bientôt amicale. Elle avait pour objet des questions de science sur lesquelles j'étais heureuse de demander son avis, puis des questions d'intérêt social ou humanitaire auxquelles nous nous intéressions tous les deux. Il y avait dans sa conception des choses et la mienne, malgré la différence de nos pays d'origine, une parenté surprenante, attribuable sans doute à une certaine analogie dans l'atmosphère familiale dans laquelle chacun avait grandi. Ils se retrouvent, ils ont le même rêve à la fois de science et le même rêve humanitaire. Chez eux, quand elle va dans la famille de Pierre, eh bien, elle retrouve un peu son ambiance en Pologne. Le père de Pierre, Eugène Curie, est un médecin aux idéaux démocratiques, aux idées progressistes, qui était sur les barricades en 1848, qui a eu la mâchoire fracturée par une balle sur ces barricades, et qui s'est mis au service aussi des insurgés de la Commune en 1971. Et Pierre se rappelle que quand il avait 12 ans, il aidait son frère à aller chercher les blessés des barricades pour les ramener jusqu'à son père qui les soignait. Mais les bonnes choses ont toujours une fin, dit-on. Et Marie, pour des raisons financières et parce qu'elle termine ce qu'elle devait faire, doit rentrer en Pologne. Pendant l'été 94, elle repart et elle n'a pas encore décidé si elle reviendrait ou pas à Paris. Pierre est très amoureux d'elle. Il essaye de la convaincre de revenir. En fait, c'est vrai, il trouve toujours méprisant de poser sa candidature quelque part, mais il y a une candidature sur laquelle il est prêt à poser son truc. Il écrit « Je vous demandais si vous vouliez louer avec moi un appartement rue Mouffetard avec fenêtres donnant sur les jardins. Cet appartement peut se diviser en deux parties indépendantes. Nous nous sommes promis d'avoir l'un pour l'autre au moins une grande amitié, pourvu que vous ne changiez pas d'avis. » En fait, Marie, elle aussi, elle brûlait de recevoir des nouvelles de Pierre. Et elle va donc décider de rentrer à Paris. Et un jour proche, une de ses amies va recevoir une lettre. Lorsque tu recevras cette lettre, écris-moi Madame Curie, École de physique et chimie, 24 rue Laumont. Ils ont décidé de se marier. Et c'est comme ça que Maria Sklodowska devient Marie Curie. Ils se marient en juillet 95, à la mairie de Sceaux. C'est un mariage civil, un mariage très simple, il n'y a pas de fête, pas d'invité, mais Marie parlera de sa robe bleue. Après ça, ils font un voyage de noces en Bretagne, ils partent en train, et là-bas, ils vont parcourir la Bretagne en vélo, grâce à deux vélos qu'ils ont pu acheter avec le cadeau de mariage d'un cousin. 2 ans plus tard, c'est la naissance d'Irène, en septembre 97. Et Marie qui reprend l'idée, bien sûr, de faire une thèse. Oui, elle a maintenant les plus hauts diplômes que peut lui donner l'université en physique et mathématiques. Et elle voudrait faire une thèse, ce que nulle femme n'a fait avant elle en physique. Il y a quelques femmes, très peu, sa sœur, Bronia, qui ont une thèse de médecine. Il y a une femme qui a une thèse d'histoire naturelle, mais personne n'a jamais fait d'études, aucune femme n'a fait de thèse en sciences. Alors bien sûr, pour faire une thèse, il faut un sujet, puis il faut un laboratoire. Elle n'a ni l'un ni l'autre. Les sujets, il y en a un premier qui l'attend. Il se trouve qu'un Bavarois, Röntgen, a découvert les rayons X 2 ans plus tôt. Les rayons X, vous savez ce que c'est? C'est ce qui va permettre de faire toutes les radios et cette découverte est extraordinaire. Beaucoup de gens travaillent là-dessus et Marie pourrait espérer des résultats assez rapides. Mais un autre sujet qui lui est conseillé d'ailleurs par Pierre. Il se trouve que Becquerel, l'année dernière, a découvert la radioactivité. L'uranium est capable d'émettre des radiations qui impressionnent une plaque photographique. Le sujet a été très rapidement abandonné par Becquerel et Marie décide d'étudier avec Pierre la radioactivité. Mais je disais, il faut un sujet, mais il faut aussi un laboratoire. Or, Pierre n'est que, on va dire, il n'a aucun poste. Il travaille simplement pour aider les autres à l'école de physique et chimie industrielle de la ville de Paris. Finalement, le directeur de cette école, Papa Schultz, va permettre à Pierre et Marie d'utiliser un local, un vieux local que vous avez là, hein, c'est une photo authentique, qui a d'abord servi à faire des dissections. Marie écrit « C'était une baraque en planches, au toit vitré ». protégeant incomplètement contre la pluie, dépourvu de tout aménagement. Il ne se trouvait pas de hotte pour les traitements qui dégagent des gaz nuisibles. Il fallait donc exécuter ces opérations dans la cour quand le temps le permettait. Sinon, il fallait le faire à l'intérieur en laissant les fenêtres ouvertes. Malgré les difficultés de nos conditions de travail, nous nous sentions très heureux. Nos journées s'écoulaient au laboratoire et il nous arrivait d'y déjeuner fort simplement en étudiant. Dans notre hangar si pauvre, régnait une grande tranquillité. Quand nous avions froid, une tasse de thé chaud prise auprès du poêle nous réconfortait. Nous vivions dans une préoccupation unique, comme dans un rêve. Un très grand physicien, qui aura le prix Nobel dans quelques années, écrit, j'insistais pour voir le laboratoire, on aurait dit une étable ou un hangar à pommes de terre. Et si je n'avais pas vu l'étable avec des équipements de chimie, j'aurais cru à un canular. Pierre et Marie Curie commencent à rechercher systématiquement s'il y a d'autres éléments que l'uranium qui ont cette propriété. Ils vont trouver que le thorium en a, mais il y a déjà quelqu'un qui a trouvé ça, Gerhard Schmidt en Allemagne. Ils cherchent systématiquement tous les corps qui peuvent exister. Et un jour, ils vont s'apercevoir que certains composés de l'uranium sont plus radioactifs qu'ils ne devraient l'être. Alors ils soupçonnent tout simplement que ces minerais radioactifs qui sont anormalement forts en radioactivité contiennent peut-être une autre substance. Marie et Pierre vont trouver cette substance, c'est le polonium, un nom donné par Marie en souvenir bien sûr de sa Pologne, un corps dont ils disent qu'elle est 150 ou 350 fois plus actif que l'uranium, et ils publient en juillet 1998 un article sur une nouvelle substance radioactive contenue dans la pêche blinde, la pêche blinde étant un minerai d'uranium. Mais là encore, en continuant leurs travaux, ils vont s'apercevoir qu'il y a encore une radioactivité cachée quelque part, et sans savoir encore pu l'isoler, eh bien, ils vont lui donner le nom de radium. Ils font des mesures, ils sont sûrs que le radium existe, et ils le publient en décembre, la découverte de cet élément. Mais il ne suffit pas de dire « je suis persuadé qu'il y a un élément encore plus radioactif que le polonium, qui est lui-même plus radioactif que l'uranium ». Le milieu scientifique est, par nature, sceptique. Et en plus, difficulté, c'est que cet élément, il est si peu présent, il est en quantité si faible dans les minerais, qu'on ne peut même pas le détecter avec les analyses chimiques qu'il y a. Donc dire « il y a un élément, mais faites-moi confiance ». Et on ne peut pas le mesurer, mais il est là. Ça ne suffit pas. Donc Marie et Pierre se disent bien qu'il faut qu'ils l'isolent. Il faut qu'ils cherchent. Il faut qu'ils trient tous les minerais qu'ils ont pour essayer de mettre en évidence cet élément, le radium. Mais voilà, Pierre. Pierre, dont je vous disais tout à l'heure, qui était autodidacte, il n'est ni normalien, ni polytechnicien. Ce qui veut dire qu'il n'aura aucune promotion, et ce qui veut dire alors qu'il n'aura aucun crédit. Comment vont-ils faire pour faire ces recherches? Il y a une chaire de physique qui est vacante à la Sorbonne. Pierre pose sa candidature, timidement bien sûr, mais il la pose. Mais il est rejeté. C'est l'élitisme des grandes écoles. Et pourtant, à cette époque-là, c'est un spécialiste mondial du magnétisme. Il a étudié les cristaux, il a étudié la piézoélectricité, c'est un grand savant. Oui, mais il n'est pas passé par les bonnes écoles, il n'est même pas passé par aucune école. Alors, bien que l'existence du polonium et du radium ne soit sans doute pas en doute, ils n'ont rien pour travailler et il accepte un poste de répétiteur à l'école polytechnique. Ils vont donc se mettre au travail avec leurs moyens, avec leur salaire, pour essayer d'isoler ce composé nouveau qu'on appelle le radium. Ah, ils espèrent faire vite, d'autant plus qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, si le diable ne s'en mêle pas. Mais le diable s'en mêle. Là, de manière tout à fait naïve, quand ils commencent leur recherche, ils analysent 100 grammes de pêche-blinde pour essayer de trouver le radium. En fait, il faudra qu'ils utilisent plus de 10 tonnes de pêche-blinde pour avoir un dixième de gramme de radium. Eh oui, des tonnes et des tonnes. Alors, ils vont faire venir des tas de pêche-blinde des mines de Bohême. C'est heureusement le baron de Rothschild qui va leur offrir de payer le transport. On va déposer tout ça dans la cour. Ils vont trier à la main ce qui est des pierres, ce qui peut être du minerai, que ce soit au poids. Ils vont mettre les minerais dans des seaux. Après, ils vont les dissoudre dans le hangar avec des produits chimiques pour essayer de concentrer la solution. Ils vont travailler des centaines de litres de solution réduits à un dé à coudre et ils vont recommencer. Ils travaillent. 1898, ils ne trouvent pas, mais ils continuent. 1899, ils continuent encore. 1900, on trie encore des tonnes de pêche blinde. 1901, on continue toujours et toujours. Et puis, ils travaillent dans des conditions absolument impossibles. Là, la phrase, elle est tirée d'un cahier de laboratoire de Marie Curie. 6 degrés 25, les 10 points d'exclamation sont sur son cahier. Ils travaillent dans des conditions de froid ou l'été de chaud, complètement impossible. Et surtout, ils respirent toute la journée des vapeurs toxiques. Ils n'ont ni poste, ni crédit. Ils s'épuisent petit à petit. Ils ont des ennuis de santé de plus en plus gênants. Ils sont obligés de prendre des repos forcés, des malaises. Pierre a des douleurs dans tout le corps. On lui diagnostique des rhumatismes. Marie, elle a des ennuis de santé aussi, qu'elle attribue à sa grossesse. Mais elle a les bouts des doigts gercés. Gercés par le froid, point d'interrogation. Elle ne peut plus écrire. Au point qu'elle va abandonner la rédaction de ses cahiers de laboratoire. Et il continue, 1902, on trie encore, mais ils ne perdent pas courage. 1903, encore et encore. On trie plus de 10 tonnes de pêche blinde. Ils sont tellement faibles que, chose complètement extraordinaire, un étudiant, enfin un jeune chercheur qui s'appelle Georges Sagnac, prend les devants et puis il écrit à Pierre, « Vous ne mangez presque pas, ni l'un ni l'autre. J'ai vu plus d'une fois Madame Curie grignoter deux ronds de saucisson et avaler là-dessus une tasse de thé. Elle se conduit comme une enfant. Il est nécessaire de ne pas mêler continuellement, comme vous le faites, les préoccupations scientifiques à tous les instants de votre vie. » Il ne faut pas lire en mangeant, ni parler physique. C'est qu'un étudiant, un jeune, pour qu'il ait l'audace d'écrire ça à Pierre et Marie Curie, il faut vraiment qu'il ait vu une situation complètement désespérée. Et puis un jour vient le miracle. Un jour, un soir, ils voient dans leur hangar des lueurs de fluorescence qui montrent qu'ils sont en train de trouver ce qu'ils cherchent. Depuis maintenant 7 ans. Nos précieux produits étaient disposés sur des tables et sur des planches. De tous côtés, on apercevait leurs silhouettes faiblement lumineuses. Et ces lueurs, qui semblaient suspendues dans l'obscurité, nous étaient une source toujours nouvelle d'émotion et de ravissement. Et c'est comme ça qu'ils vont, ça, radium pur, dans cette coupelle, c'est écrit par Marie Curie, ils ont réussi à obtenir un décigramme, un dixième de gramme de chlorure de radium après avoir trié et étudié plus de 10 tonnes de minerai. Marie va annoncer la découverte à l'Académie des sciences et avec Pierre, ils vont refuser de faire breveter le travail. Mais elle a trouvé, elle a fini sa thèse, elle va passer sa thèse. Recherche sur les substances radioactives, c'est la première thèse de physique soutenue par une femme en France. Le soir de sa thèse, il y a un dîner qui est organisé. Là se trouve Rutherford, celui qui a découvert l'électron, et qui est en France à ce moment-là, il est anglais, et il fait partie des quelques physiciens qui, justement, en Angleterre, encouragent les femmes à faire des études de sciences. Il est là avec sa femme. Il y a aussi Jean Perrin, l'ami de tout le monde, l'ami permanent et sa femme. Et dans l'obscurité, Pierre Curie va sortir de sa poche un tube pour montrer la lueur du radium. Rutherford, qui est très observateur, Il voit alors non pas le radium briller, mais il voit les doigts brûlés de Pierre Curie, craquelés. Il voit même que Pierre Curie a du mal à tenir le tube. Pierre lui avouera après qu'il avait si mal aux doigts que certains jours il ne pouvait même pas écrire. Il a des douleurs violentes dans différentes parties du corps et ses jambes tremblent si fort que quelquefois il ne peut pas se lever le matin. Et Rutherford se tourne alors vers Marie et il voit que Marie aussi a les doigts complètement brûlés. Marie, elle aussi, est fatiguée, malade, mais elle attribue toujours, comme le médecin leur a dit, ses douleurs à des rhumatismes. Et puis, dans cette grande fatigue, elle va perdre son enfant, elle était enceinte, et... Attendez, il y a un petit problème encore. Non, elle va perdre son enfant et elle est découragée. Elle écrit à sa sœur Bronia, « Écris-moi, je t'en prie. Si tu crois que je dois accuser la fatigue générale, car je dois bien avouer que je n'ai pas épargné mes forces. J'avais confiance dans mon organisme et à présent, je le regrette amèrement, car je l'ai payé cher. L'enfant, une petite fille, vivait, et moi qui la désirais tellement. Écris-moi. » Sur les entrefaites, 6 mois après sa thèse, ils vont recevoir le prix Nobel de physique, qui est partagé pour moitié avec Henri Becquerel, qui a découvert la radioactivité. L'histoire de ce prix Nobel mérite aussi qu'on s'y arrête une minute. En fait, seuls étaient nommés pour le prix Nobel Pierre et Becquerel. Et c'est grâce à une indiscrétion de quelqu'un qui s'appelle Gustav Mittag-Leffler, qui faisait partie du comité Nobel, et qui trouvait que c'était anormal que Marie ne soit pas proposée pour le prix Nobel, il va faire une indiscrétion. Avant qu'il soit décerné, il écrit à Pierre en lui disant « Dites-moi, on va vous donner le prix Nobel, dites-moi ce qu'a fait Marie. » Et c'est Pierre qui va répondre à ça « Si Marie n'a pas le prix Nobel, je le refuse. Moi, je le veux pas non plus. » Et il aura donc fallu cette intervention et cette indiscrétion pour que Marie, qui était considérée simplement comme une aide de laboratoire, alors qu'elle avait une partie essentielle dans le travail, reçoive le prix Nobel. Ils ont le prix Nobel en 1903, mais ils sont tellement fatigués qu'ils ne pourront aller le chercher qu'en juin 1905. Le discours de Pierre Curie pour le prix Nobel se fera assis. Il ne peut pas rester debout. Et puis va naître Ève, à la fin de l'année suivante, Ève Curie. Mais leur état de santé laisse toujours de l'inquiétude. Pierre est inquiet. Il écrit « Madame Curie est toujours fatiguée sans être vraiment malade. » Et de son côté, Marie est inquiète aussi. Elle s'inquiète pour Pierre. Peut-être s'agit-il d'une terrible maladie que les médecins ne peuvent pas identifier. Peut-être Pierre ne sera-t-il plus jamais bien. Et c'est vrai que les jambes de Pierre sont de plus en plus faibles. Pendant les vacances, il n'arrivait pas à marcher dans le sable. Il a des douleurs dans le dos de plus en plus fréquentes. Et certains jours, il n'arrive même pas à s'habiller. Ils continuent pourtant leurs recherches. Pierre pose sa candidature à l'Académie des sciences. Il est rejeté. Toujours pas de poste. Rien. Et pourtant, les découvertes qu'ils ont faites tous les deux sont importantes. Pourtant, il a le prix Nobel. Oui, mais il n'est pas passé par le sérail normal. En 1904, il fait des études sur les effets de la radioactivité et il s'aperçoit que le radium a des actions sur les globules blancs. Et naît l'idée de la curithérapie. Oui, on utilise déjà pour soigner certains cancers les rayons X, mais il semble que la radioactivité soit encore plus efficace. Ah, les effets biologiques. Pierre voit bien que c'est dangereux. Pierre voit bien qu'il y a des effets. Il a gardé un tube dans sa poche et après il en a eu, pendant très longtemps, une tumeur rouge qu'il n'arrivait pas à soigner. Une lésion qui était très très longue à guérir. Il avertit des dangers d'une exposition au radium. Mais le radium est devenu, par la presse, un produit extraordinaire. On va mettre du radium partout. Un vent de folie. On met du radium dans la layette des bébés, on en met dans les crèmes de beauté. C'est les années folles, complètement folles du radium. On va même... Il y a ici des crèmes radioactives pour les mains, des thés, des boissons tonifiantes, rajeunissantes, dans lesquelles on met du radium. Et puis, même pour la pêche, la radia, à part radioactif, attire les poissons et les écrevisses comme l'aimant attire le fer. Bref, on met du radium partout. Bref, Pierre Curie a beau dire que le radium est dangereux, on en met partout, ça se vend bien. Et puis enfin arrive le moment où Pierre va enfin être nommé professeur à la Sorbonne. On crée une chaire spécialement pour lui. Il n'a pas encore de laboratoire, mais il va en avoir un bientôt. Bref, il aura en attendant deux pièces dans un atelier. C'est le bonheur, c'est une nouvelle étape de leur vie. C'est les meilleures années qui s'ouvrent à eux. Et puis, le 16 avril 1906, Marie est à la maison avec les enfants. Pierre, il a une réunion dans son laboratoire pour préparer des enseignements. Il a retrouvé ses amis de toujours, c'est-à-dire, bien sûr, Paul Langevin, et puis l'ami de toujours, qui est Jean Perrin. Il les invite, le soir, à manger dans un petit restaurant rue Kellermann. Et il les quitte à 14h. Il marche en direction de la Seine. Il arrive au carrefour de la rue Mazarine et de la rue Dauphine. Il y a un énorme embouteillage avec des fiacres, un camion à chevaux, le tramway. Il pleut. Pierre ouvre son parapluie, glisse. Il est renversé et il a la tête écrasée par un camion qui passe. Il avait 46 ans. Le conducteur du camion... On dira l'homme en noir, c'est Pierre, son bain glissé sur l'asphalte humide, et il tenta de se raccrocher à l'animal qui se cabra. Il tomba entre les deux bêtes que tentait de retenir le conducteur et entre les roues avant du lourd camion. Il ajoutera d'ailleurs dans sa déposition, il allait rapidement, son parapluie ouvert à la main, il se jeta littéralement sous mon cheval gauche. Marie, qui a 38 ans, elle écrit « Je suis rentré dans la pièce. Quelqu'un m'a dit « Il est mort. » Est-il possible de comprendre ces mots ? Pierre est mort. Lui qui était si bien ce matin, lui que j'espérais serrer dans mes bras ce soir, je ne le verrai que mort, et ceci pour toujours. Je répète ton nom encore et encore. Pierre, 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 mon Pierre. Hélas, cela ne le fait pas revenir. Il est parti pour toujours en me laissant que le chagrin et le désespoir. Et ce jour-là, Madame Curie devient Madame Pierre Curie. C'est un moyen pour elle de rendre hommage à Pierre, une manière aussi de continuer leur action commune. Elle va rester avec ses deux enfants, Irène a 12 ans, Ève en a 2. Et elles vont souffrir, je le disais tout à l'heure, du manque de tendresse de leur mère, qui pourtant est très très attentive, qui a gardé toutes leurs lettres, tous leurs dessins, qui est attentif à leur goût. Alors, oui, mais voilà. Heureusement, il y a le grand-père, le docteur Curie, qui lui déborde de tendresse, il prend ses petites filles sur les genoux, il leur raconte des histoires, il les fait rire, il plaisante. Il leur explique la nature qu'il connaît bien. Mais bien sûr, pour les deux filles, la vie est difficile aussi, bien sûr. Alors, Marie, après la mort de Pierre, commence un journal. Elle ne se remettra jamais de la mort de Pierre, et c'est un journal pathétique où elle lui parle tous les jours. « Je veux te dire que je n'aime plus le soleil ni les fleurs. Leur vue me fait souffrir. Je me sens mieux par les temps sombres comme le jour de ta mort. » Et si je n'ai pas pris le beau temps en haine, c'est parce que mes enfants en ont besoin. Je travaille au laboratoire toutes mes journées, c'est tout ce que je peux faire. J'y suis mieux que partout ailleurs. On m'offre de prendre ta succession, mon Pierre, ton cours et la direction de ton laboratoire. J'ai accepté. je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Et c'est comme ça que Marie Curie va devenir la première femme professeure d'université. C'est un événement. Elle va disposer d'un laboratoire et elle va reprendre le 5 novembre le cours de Pierre. Il y a une foule énorme, tellement énorme qu'on va fermer les portes 5 minutes après les avoir ouvertes parce que l'amphi est plein. Et un journaliste va écrire à 13h30, on vit entrer une mince silhouette à la limite de la résistance nerveuse, poser quelques papiers sur la table. Certains la virent frotter le bout de ses doigts et sans inauguration, reprendre le cours là où Pierre Curie l'avait laissé. Ainsi commençait pour les femmes une ouverture de tous les métiers des sciences. Et bien peu de journalistes s'en sont aperçus. Seul un journal va écrire « C'est une grande victoire féministe que nous célébrons ce jour. Car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où est désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle ? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes seront considérées, elles aussi, comme des êtres humains. » Eh oui. Hier, j'ai fait le premier cours en remplacement de mon Pierre. Quel navrement et quel désespoir. Tu aurais été heureux de me voir professer en Sorbonne, et moi-même je l'aurais fait si volontiers pour toi. Mais le faire à ta place, au bon Pierre, pouvait-on rêver à une chose plus cruelle ? Comme j'en ai souffert et comme je me sens découragé. Je sens bien que toute faculté de vivre est morte en moi, et je n'ai plus que le devoir d'élever mes enfants et aussi la volonté de continuer la tâche acceptée. Peut-être aussi le désir de prouver au monde, et surtout à moi-même, que celle que tu as tant aimée avait réellement quelque valeur. Elle reprend la recherche dans son laboratoire, mais évidemment, tous ces événements, en plus de ses recherches sur le radium, l'ont épuisée. C'est déjà une femme usée par la maladie, par la souffrance, par le chagrin. Voyez cette photo. Voyez en même temps ses mains. Elle a 41 ans. Elle a déjà des mains de vieille femme. Elle est toujours considérée comme une femme, même si elle a son succédé à Pierre Curie. Et on lui refuse le laboratoire, c'est difficile. Heureusement, il y a un riche Américain, Carnegie, qui va prendre les choses en main et qui va écrire au président de l'université « Oserais-je vous suggérer qu'aussi longtemps que Madame Curie est vivante et capable de faire son cours, ses désirs doivent être respectés ?» Et c'est comme ça qu'on va poser les plans, le projet de faire une fondation Curie qui sera partagée entre un laboratoire, le laboratoire Curie, et un autre, le laboratoire Pasteur. Il y a cette année-là un siège vacant à l'Académie des sciences. Marie est un des rares prix Nobel français. Elle fait aussi déjà partie de nombreuses académies étrangères, suédoises, tchèques, hollandaises, polonaises. Elle fait partie de très nombreuses associations scientifiques, mais sa candidature est refusée. Elle n'entrera jamais à l'Académie des sciences. Dans tous ces malheurs, dans toutes ces choses, elle donne des cours à Sèvres. Et là, il y a un vieil ami de Pierre, qui est Paul Langevin, qui avait été l'élève de Pierre. Et c'était quelqu'un d'extrêmement brillant, normalien, professeur au Collège de France, déjà, il a 35 ans. Lui, qui aurait trouvé aussi indépendamment l'équation E égale mc2 et dont Einstein disait « si je n'avais pas publié la relativité, c'est Paul Langevin qui l'aurait trouvé », il se rencontre. Il dit être attiré par Marie comme par la lumière. Et on peut penser que c'est réciproque. Il y a une grande amitié qui naît entre deux. Et en avril 1910, Pierre Borel, directeur de l'École normale supérieure, qui reçoit Marie très souvent avec Paul Langevin, dit « C'est curieux, J'ai vu Marie toute transformée. Que se passe-t-il ? Eh oui, peut-être Marie est-elle amoureuse ? Peut-être. Mais c'est impossible. Paul Langevin est marié. Il est marié avec une femme et ses relations avec cette femme sont très très difficiles. Son mariage est un échec. Il a toujours et sa femme et sa belle-mère sur le dos qui lui reprochent en particulier de continuer à être universitaire et de gagner si peu alors que s'il était dans l'industrie, il gagnerait beaucoup plus. La vie à deux finit par des coups et la vie conjugale devient un enfer. Alors évidemment, il y a encore Jean Perrin, l'ami universel de toujours, qui essaye d'arranger les choses, mais il n'y arrive pas. Et finalement, Paul va prendre un petit appartement dans le quartier latin et demander le divorce. Est-ce que c'est une chance pour Marie ? On ne sait pas, mais Marie lui écrit « Il serait bon de conquérir la liberté et de nous voir autant que la diversité de nos préoccupations le permet, de travailler ensemble. » De nous promener ensemble. Il y a entre nous des affinités très profondes qui ne demanderaient pour se développer qu'un train de vie favorable. Que va-t-il se passer ? Le problème, c'est que Paul Langevin a déjà commis des infidélités, que sa femme le sait, et que sa femme, Emma Desfosses, le fait surveiller de près. Un soir, avec sa sœur, ils attendent Marie Curie dans une rue, ils agressent Marie Curie et ils la menacent. Ah oui, je ne suis pas passé à l'autre, ça ne fait rien. Et ils menacent de tuer Marie Curie si elle ne quitte pas la France immédiatement. Marie est affolée et Paul lui dit qu'il serait bien capable de passer aux actes. Et Paul conseille à Marie de quitter la France. Marie refuse, mais elle prend peur et elle va rentrer un temps en Pologne. Mais elle revient et il se trouve qu'en avril 1911, aux alentours de Pâques, eh bien, l'appartement de Pierre Curie est cambriolé et la correspondance de Pierre et de Paul et de Marie est prise et donnée à la presse. Marie, à ce moment-là, est au Conseil Solvay dans un congrès à Bruxelles où elle est la seule femme, vous le remarquerez là, à côté d'Henri Poincaré. Elle est tellement fatiguée que Rutherford, qui est là aussi, écrit « Madame Curie semble très fatiguée, elle est hagarde, paraissant plus âgée qu'elle ne l'est. Elle travaille beaucoup trop, son allure est pathétique. » À la fin de ce congrès, la presse s'empare de la question de la liaison de Paul et de Marie Curie. Une histoire d'amour, Marie Curie et le professeur Langevin. Et un article dans lequel j'ai entouré en bas Marie Curie, veuve du célèbre savant et sa collaboratrice dans la découverte du radium, toujours. Et puis, la presse va se déchaîner, jour après jour. La presse a scandale, bien sûr, mais aussi beaucoup d'enjeux politiques. Le scandale s'amplifie. Les journaux étrangers s'en emparent aussi. Les feux du radium viennent d'allumer un incendie dans le cœur d'un des savants qui étudie leur action avec ténacité. Et la femme et les enfants de ce savant sont en larmes. Et on traîne Marie dans la boue jusqu'à suggérer l'idée qu'en fait, Pierre n'est pas mort accidentellement, qu'il s'est suicidé en se jetant. Et oui, on la traîne dans la boue. Le rapport de police dit bien qu'il s'était. Il était tombé comme s'il s'était jeté littéralement sous mon cheval de gauche. Et puis la presse publie des extraits de lettres bien choisis. Là, quand il voit ça, Paul Langevin, toujours, avec bien sûr Émile Borel, sa femme, ils vont chercher d'urgence pendant la nuit Marie pour lui dire de venir s'installer chez eux. Et ils ont raison. Le lendemain, quand le journal paraît, on lance des pierres sur la demeure où habite Marie en disant « Dehors l'étrangère, la voleuse de Marie, etc. » Marie va se défendre. en écrivant, je considère comme abominable toutes les intrusions dans ma vie privée, c'est pourquoi j'entreprendrai une action contre la publication des crimes m'étant attribués, et va obtenir des excuses d'un des journalistes. Madame, je suis au désespoir et je viens vous présenter mes plus humbles excuses. Mais la presse se tourne alors vers Paul Langevin. Langevin, qu'on appelle le Chopin de la Polonaise, il laisse traîner dans la boue la femme qui porte son nom, la femme qui restera la mère de ses quatre enfants. Cet homme-là, fut-il professeur au Collège de France, n'est qu'un mufle et un lâche, pour vous dire jusqu'où va aller la chose. Paul Langevin écrit « J'ai décidé de provoquer Terry en duel, c'est idiot, mais je dois le faire. » Et il y aura plusieurs duels à propos de cette affaire. Devant ça, Madame Pierre Curie va devenir maintenant Madame Sklodowska. Elle est obsédée d'avoir souillé le nom de Pierre. Elle reprend donc son nom de famille, quand elle était en Pologne. Irène ne comprend pas pourquoi elle ne s'appelle plus Pierre Curie. Irène va être fâchée, mais Marie n'accepte pas de se rappeler Pierre Curie. Et c'est là qu'elle va obtenir le deuxième prix Nobel. Le premier prix Nobel avait fait l'unanimité dans la presse. Là, la presse française ne va pratiquement pas en dire un mot. Et on va même lui écrire de Stockholm, « Je vous prie, il est souhaitable, il est à souhaiter que vous ne veniez pas ici recevoir le prix Nobel. Je vous prie de rester en France. J'espère que vous télégraphierez qu'il vous est impossible de venir à Stockholm le 10 décembre prochain. » Marie Yassa va répondre « Je ne puis accepter de poser en principe que l'appréciation de la valeur d'un travail scientifique puisse être influencée par des diffamations et des calomnies concernant la vie privée. Je suis convaincu que cette opinion serait partagée par beaucoup d'autres personnes. Je suis très peiné que vous ne soyez pas vous-même de cet avis. » Et elle reçoit des encouragements de Rutherford, des encouragements d'Einstein. Et malgré sa santé, toujours chancelante, elle va prendre le train pour Stockholm, où là, on va l'accueillir absolument triomphalement. Quand elle rentre, évidemment, tout projet avec Pierre Curie est maintenant impossible. Et puis, de toute façon, elle est à bout. Elle rentre, elle est complètement à bout, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Elle est hospitalisée d'urgence, elle va rester hospitalisée plusieurs mois, opérée d'un rein, elle se remet de mal, elle rédige même un testament et entre dans une nouvelle dépression pour quitter le tumulte de la vie parisienne. Elle va partir en Angleterre chez quelqu'un qu'elle a rencontré, une physicienne aussi, Hertha Ayrton, et elle s'installe là. Comme elle ne veut pas qu'on sache qui elle est, elle s'appelle toujours Marie Sklodowska. Et ce n'est qu'en 1913 que Marie va pouvoir reprendre une activité à peu près normale. Et un jour, ça sera le bonheur d'Irène qui n'avait pas compris que Marie change de nom. Un jour, Irène va recevoir une lettre. Quand tu auras reçu cette lettre, tu m'écriras non plus à Birmingham, mais à Londres, chez Madame Ayrton, en écrivant pour Madame Curie. Oui, Madame Curie était de retour. Elle va rentrer dans son laboratoire, rue Cuvier, et reprendre le travail. Mais c'est là que commence la Première Guerre mondiale. La guerre éclate. Elle écrit à ses filles, « Soyez calmes et courageuses. » Irène a 17 ans. Sa mère lui propose de travailler avec elle pour essayer de faire quelque chose sur le front, peut-être. Elle est contente, essentiellement contente d'ailleurs, sans doute, d'être utile pendant la guerre, mais aussi d'être avec sa mère. Elle fait des suggestions. Irène, elle pourrait être infirmière, secrétaire, institutrice, etc. Marie va faire le plan d'une grande campagne qui consiste à utiliser les rayons X, les appareils inutilisés dans les laboratoires, pour faire des postes mobiles et faire des radios pour soigner les soldats blessés. Elle aura beaucoup de mal à convaincre l'état-major. Toujours pareil, une femme sur le front. Mais enfin, finalement, on va lui permettre, elle est là avec Irène aussi, qui est là, qui a 17 ans, Et là, on va lui permettre et va organiser des voitures. Elle réquisitionne des voitures qui sont à moitié en panne, des châssis. Elle fait construire des fourgons. Elle forme les infirmières avec Irène et ils vont aller sur le front. On va les voir successivement à Verdun, sur le front aussi belge et un peu partout. Marie écrira « Je n'ai jamais pu oublier la terrible impression produite par toute cette destruction de la vie humaine et de la santé. Pour haïr l'idée même de la guerre, il suffirait de voir une fois ce que j'ai vu si souvent pendant toutes ces années. » Sur la période 1917-1918, les postes de radiologie ont secouru 1 100 000 blessés. À la fin de la guerre, elle va commencer une autre guerre. Cette autre guerre, c'est l'Institut du radium, le rêve de Pierre. Elle veut continuer des recherches, mais le radium est trop cher. Elle ne peut pas, elle-même qui a trié pendant des années des minerais de pêche blinde, elle ne peut pas s'acheter 1 mg de radium. Et oui, il n'y a plus d'argent, et puis l'argent, on la met plutôt pour restaurer un certain nombre de choses, pour la recherche médicale, pas pour la recherche fondamentale. Alors, cette guerre va commencer, on va faire des affiches pour la Ligue contre le cancer. Pour vous donner un exemple, en valeur actualisée, un gramme de sel de radium coûte en 1915 105 millions d'euros actuels. Comment pouvoir faire des recherches? Comment pouvoir avoir le matériel? La France n'a plus d'argent. Et là, un jour, peut-être par hasard, toujours, chance, malchance, va-t-en savoir, qui sait, elle va accepter une interview d'une femme. C'est peut-être parce que c'est une femme, Missy. Aucun journaliste n'a jamais pu avoir d'interview de Marie Curie après la mort de Pierre. Et on peut penser que tout le mal que lui ont fait les journalistes avec l'histoire de Paul Langevin est pour beaucoup dans cette histoire. Mais Missy, elle arrive, un jour elle frappe à son laboratoire et puis elle se lâche, elle accepte et elle répond à Missy. Missy écrit « Je vis une femme pâle et timide avec le visage le plus triste que j'ai jamais vu. Elle portait une robe noire, ses mains bien dessinées étaient gercées. Je remarquais la façon nerveuse et machinale qu'elle avait de se frotter d'un mouvement rapide le bout des doigts avec le pouce. » Et cette Missy semble connaître absolument tout le monde aux États-Unis, elle est elle-même américaine. Elle suggère à Marie d'aller faire une tournée aux États-Unis pour récolter de l'argent pour son institut du cancer. Elle voudrait avoir de quoi acheter 1 gramme de radium. Le voyage aux États-Unis est un triomphe, mais en même temps une épreuve. Elle n'y voit plus rien. Elle est opérée coup sur coup 2 fois de la cataracte. Elle n'entend plus. Et la plupart des réceptions, elle ne peut pas y aller. Et elle envoie ses 2 filles à sa place, tellement elle est fatiguée. Elle doit continuer son voyage pour aller jusque sur la côte ouest du Pacifique, là-bas, mais elle ne va pas y aller. Et elle rentre en France. Sur cette photo, elle n'a que 52 ans. C'est quand elle rentre à l'Académie de médecine. En rentrant à Paris, elle ne voit pratiquement plus, elle n'entend pratiquement plus, et on est obligé d'écrire en très gros, comme j'ai mis là, tout sur les appareils, arrêt, marche, et soit Ève, souvent, Irène, ou une étudiante, la pilote dans les rues, pour qu'elle puisse ne pas buter sur des trottoirs, etc. Elle commence, et on commence à se douter des méfaits du radium. Est-ce que par hasard, le radium serait dangereux? On peut se dire, mais comment est-ce qu'on n'y avait pas pensé plus tôt? Après tout, si Pierre, qui avait déjà tellement de mal à marcher sur la plage, est-ce que Pierre n'est pas tombé parce que ses jambes ne le portaient plus quand il a été écrasé par ce camion? Et puis Pierre, dès 1904, il avait étudié les effets. Il avait vu que sur des souris, sur des rats de laboratoire, le radium avait des effets terribles. Pourquoi on n'en a pas tenu compte? Oui. Une petite enquête montre qu'en Europe, beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le radium, sur la radioactivité, ont un état dépressif physique et moral, mental, anormal. En 1924, il y a un dentiste de New York qui est étonné de voir plusieurs de ses patientes avoir un cancer de la mâchoire. Au début, il se dit, tiens, c'est une coïncidence. Puis en creusant un peu, il s'aperçoit que toutes travaillent à peindre des chiffres lumineux sur des cadrans. En Europe, des dizaines de chercheurs meurent. Marie ne peut pas accuser le radium. Marie va dire, non, c'est pas radium, c'est ces gens qui ne se protègent pas comme ils devraient. On crée une commission d'enquête en Angleterre. En France, on n'en crée pas. Et on continue à vendre des médicaments. On continuera pendant plus de 20 ans à vendre des choses dangereuses. Au laboratoire, maintenant, il y a Irène. Irène. Irène, extrêmement brillante, qui a eu le bac à 14 ans et qui a eu sa licence de physique à 17 ans. Elle commence une thèse. Pour Marie, qui ne peut déjà plus travailler comme elle le voudrait sur les appareils à cause de sa vue, elle voit Irène comme vraiment sa successeuse, son bras droit. Mais la vie est triste. Jusqu'au moment où un jour, Irène, qui le matin lui apporte son plateau de petit déjeuner, Marie a du mal à se lever, Irène lui dit qu'elle est fiancée. Oui, elle a rencontré quelqu'un, Frédéric Joliot, qui est un admirateur de Pierre et de Marie Curie, qui a même dans sa chambre une photo de Pierre et Marie Curie sur le mur. Avec Frédéric Joliot, entre un peu de joie dans la maison, de la joie qui n'était plus là depuis des années et des années, voire des dizaines d'années. Parce que Frédéric Joliot, il est jeune, il est amusant, il a beaucoup d'humour, il aime rire, il pilote une voiture de course, il fait des tas de choses, il est très très vivant. C'est vraiment le bonheur pour Irène, mais c'est aussi du bonheur pour Marie. Mais Marie a des hémorragies et elle commence à douter des effets du radium sur sa santé. Elle écrit « Quelquefois le courage me manque et je me dis que je devrais cesser de travailler, aller habiter à la campagne et me consacrer au jardinage. Mais mille liens me retiennent et je ne sais quand je pourrai m'arranger ainsi. Je ne sais pas non plus si, même en écrivant des livres scientifiques, je pourrais me passer du laboratoire. » Au début de 1932, elle glisse, elle se casse le poignet. D'après le médecin, c'est rien du tout, ça va se remettre en quelques mois. Et voilà que ça ne se soigne pas. Le poignet ne se remet pas. Et là, d'autres mots qui commencent et elle va entrer là dans la fin de sa vie. En changeant encore de nom, elle est en passe de devenir Madame Pierre. Oui, devant ces malaises répétés, Rutherford est prévenu. Et Rutherford a écrit que ça faisait 25 ans qu'il n'avait jamais réussi à la regarder sans se dire qu'elle avait déjà un pied dans la tombe. Marie, il écrit à Marie, Marie ne répond pas. Elle est emmenée. Après, un jour, dans son laboratoire, elle dit à quelqu'un qui travaille avec elle, « Attendez-moi, je vais me reposer quelques jours, puis nous ferons cela ensemble. » Elle ne devait jamais revenir. À la mi-mai, elle est si faible qu'on craint une rechute de tuberculose et on va l'emmener au sanatorium de Passy, en Haute-Savoie. Il y a sa fille Ève qui est là et une infirmière. Le voyage se passe mal. Marie perd plusieurs fois connaissance. Et Ève, pour que la présence de Marie Curie dans ce sanatorium ne se sache pas, l'inscrit dans le sanatorium sous le nom de Madame Pierre. Là, sa santé empire, ses globules rouges et blancs diminuent rapidement et on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'une tuberculose, mais d'une leucémie qui la ronge depuis 20 ans. Pour vous dire, encore maintenant, on ne peut pas accéder à tous ces carnets de laboratoire parce que leur radioactivité est encore plus grande que normale. le 4 juillet, elle va dire le matin, je veux reposer en paix, elle va tomber dans le coma et elle meurt à l'aube. Ainsi était tournée la dernière page de la vie de Marie Curie, une vie d'épreuve, de passion, de joie aussi, une vie au service de son rêve scientifique, mais aussi de son rêve humanitaire. Elle aura su, avec Pierre d'abord et après, transmettre à ses deux filles à la fois son rêve humanitaire et un peu son rêve scientifique, qu'elle partageait complètement avec Pierre. Irène, sur la gauche, va recevoir avec Frédéric Joliot le prix Nobel de physique quelques années après la mort de Marie pour la découverte de la radioactivité artificielle. Irène sera une des premières femmes à rentrer dans un gouvernement à une époque où les femmes n'ont pas encore le droit de vote. Hein, ils sont trois femmes dans le gouvernement de 1936. Ça sera une militante anti-fasciste qui va soutenir très fortement les émigrés espagnols. Ève, quant à elle, elle est morte il n'y a pas bien longtemps, en 2007. Va vivre à New York, c'est une pianiste, aussi femme de lettres. Elle va vivre pendant une vingtaine d'années avec Leonard Bernstein, le chef d'orchestre et compositeur. Elle va s'engager dans la résistance. Le général de Gaulle lui rendra hommage pour tout ce qu'elle va faire. Elle intervient à Radio Londres. Et puis, après la guerre, elle va épouser Henri Labouisse, qui est le directeur de l'UNICEF. Et avec Henri Labouisse, elle recevra le prix Nobel de la paix au nom de l'UNICEF. Ève Curie aura, elle aussi, contribué beaucoup à l'aide humanitaire. Voilà Marie Curie dans son laboratoire. Elle aura travaillé 8 ans pour économiser l'argent dans le désespoir pour pouvoir faire des études de sciences. Elle aura surmonté d'effroyables difficultés. C'est la première femme à avoir obtenu une licence de physique, la première à avoir obtenu une licence de mathématiques. La première femme, bien sûr, à recevoir le prix Nobel de physique. L'unique personne à avoir 2 prix Nobel scientifiques. La première femme à rentrer dans une académie de médecine. Elle a découvert la radioactivité, le radium, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses, mais quel est l'essentiel de son œuvre ? En fait, le parcours de Marie Curie, je pense, aura beaucoup encouragé les femmes à rentrer dans des domaines qui leur étaient jusque-là interdits. Le fait que, en France, le nombre de femmes faisant de la recherche est relativement plus élevé que dans les autres pays, est peut-être dû directement ou indirectement, qui sait, à Marie Curie. Mais elle, ou peut-être pas elle, elle va faire aussi un dernier pas pour ouvrir toutes les portes aux femmes avec De Gaulle, avec Mitterrand, pardon, qui en 1995 va décider de la faire entrer au Panthéon avec Pierre. Le Panthéon sur le fronton duquel est pourtant écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Mitterrand va dire « La cérémonie d'aujourd'hui prend un éclat particulier puisqu'entre au Panthéon la première femme de notre histoire honorée pour ses propres mérites. Il est un autre symbole qui retient l'attention de la nation et que j'ai l'honneur d'exprimer devant vous, celui du combat exemplaire d'une femme qui a décidé d'imposer ses capacités dans une société qui réserve aux hommes les fonctions intellectuelles et les responsabilités publiques. Voilà, je vous remercie.
Merci, Monsieur Vigoureux. J'en suis tourné. Donc, je vais faire. Il faut que je. Bien, on donnera l'occasion de poser des questions, bien sûr. Donc, à nouveau, je fais de la publicité pour ceux qui ne connaissent pas M. Vigoureux. Tous les ouvrages scientifiques de vulgarisation dans le bon sens du terme qu'il a écrit. Il y en a 4 qui sont ici, et donc il y a quelques exemplaires qui sont à la sortie. Comment ? Non ? Et donc, je rappelle la série. Donc, les pommes de Newton, la gravitation, et puis l'émergence de la science moderne, on va dire, et les 2 bouquins sur les œuvres d'Einstein, la quête d'Einstein sur la relativité restreinte, et l'univers en perspective sur la relativité générale. Alors, pour ceux qui veulent une révision, Monsieur Michel Bonin, qui est notre conférencier d'astronomie, vient de nous faire tout le cycle, et on va voir dans les 15 jours qui viennent ces 2 thèmes qui vont être expliqués, mais par un professeur de physique, un autre. Hein, et donc, vous viendrez et vous comparerez à ce qui est marqué là-dedans. Et donc, un dernier bouquin qui est le plus récent, « La science et le veau d'or », dont le thème est « Est-ce que la quête du bonheur avec la science ?» si vous voulez, les interrogations autour de cette thématique-là. Donc, je recommande vivement d'acquérir ces livres. Il pourra même, si on lui demande gentiment, vous les dédicacer. Voilà. Et donc, je reprends un peu mes esprits, parce que vous savez que je connais bien aussi toute cette histoire. Donc, je voudrais citer au moins 2 autres sources, qui est le film Les Palmes de Monsieur Schultz. Les Palmes de Monsieur Schultz, qui est un film magnifique, qui explique l'histoire de la découverte de la radioactivité. Et le livre d'Irène Frein, Madame Curie prend un amant, qui raconte toute l'histoire avec Paul Langevin. Et ça, c'est écrit par une littéraire, et c'est tout à fait prenant. Elle a fait des recherches tout à fait détaillées sur toute cette abominable histoire. Voilà.
Et on peut ajouter aussi, il y a le livre de Ève Curie, qui a écrit, c'était le premier livre sur Marie Curie.
Voilà. Et puis, dernière chose, ça c'est un petit souvenir personnel, c'est pour ça que je suis très ému. Ma fille cadette s'est mariée dans le fauteuil de Marie Curie à la mairie de Sceaux. Voilà. Donc j'ai un lien personnel. Direct. Oui, pas avec Marie Curie, et aller au petit musée de Marie Curie, qui était son labo, qui est très émouvant, et où on voit tous les produits radioactifs et ces carnets de labo qui sont sous des petites vitres, disons blindées, pour éviter de le toucher. Voilà, donc j'ai une émotion particulière pour... Et on remercie encore M. Vigoureux pour la qualité de son exposé, puis l'émotion et la passion qu'il a.
Voilà, merci.
Alors, je vais quand même laisser la parole à l'audience là pour savoir s'il y a des questions à poser à M. Vigoureux. Il n'y a pas de questions ? Bon, alors là, on était vraiment dans l'histoire et l'histoire de la science. Donc, je rappelle, donc à 18h30 à l'IUT, M. Jean-Pierre Pervès nous parlera de Fukushima, qui est un avatar lointain et, enfin, de toute cette aventure. Voilà.